Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints, qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen.
Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes à cette page parce que nous ferons un certain nombre d'allers-retours. Donc surtout, voilà, gardez vos Bibles ouvertes. Alors Nietzsche, célèbre philosophe athée, aurait dit un jour pour qu'il croie, il faudrait d'abord que les prétendus croyants qu'il voyait sortir des églises aient l'air un peu plus sauvés et heureux de l'être. Alors c'est vrai que la tête des paroissiens à la sortie des églises peut être un bon indicateur de la qualité de leur compréhension et de leur acceptation de l'Évangile. Pourquoi avons-nous en effet tant de mal à nous réjouir, à être reconnaissants, à être dans le contentement ? Certainement car nous n'avons pas bien compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ et tout ce qu'elle a d'implication extraordinaire pour nous. Certainement car nous n'avons pas encore bien compris que nous sommes, un mot un peu familier, des veinards. Un veinard, c'est quelqu'un qui a de la veine, de la chance. C'est quelqu'un à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire sans qu'il l'ait mérité la moindre seconde. C'est celui qui gagne au loto, 10, 20 millions d'euros. Ah, ce qu'on aimerait gagner tout cet argent. N'est-ce pas plus besoin de travailler, plus besoin de se faire du souci pour l'avenir ? La sécurité. Et là, on se dirait, ah, je suis pleinement reconnaissant, satisfait et heureux. Alors l'apôtre, dans son introduction à cet épître aux Éphésiens, nous propose autre chose que le loto pour être devant Dieu ce qu'il veut que nous soyons, des adorateurs humbles, reconnaissants et pleinement satisfaits. Et il semble bien au ton qui est le sien, en ce début d'épître, que ce que l'apôtre nous propose est incomparablement supérieur à quelques gains d'argent ou autre. En effet, les versets 3 à 14 ne forment qu'une seule phrase, comme si l'apôtre ne pouvait s'arrêter d'énumérer, d'exposer toutes les richesses qui sont celles des croyants. Il le fait avec un enthousiasme débordant. Alors je vous propose de voir avec l'apôtre quelles sont ces bénédictions si extraordinaires qui devraient nous conduire à la joie, le contentement. Dans un deuxième temps, nous verrons comment nous pouvons recevoir ces bénédictions. Comment être au bénéfice de ces richesses immenses. Et puis enfin, dans un dernier temps qui sera en même temps notre conclusion, nous verrons ce que ces bénédictions que nous recevons impliquent dans nos vies, ce qu'elles devraient susciter dans nos vies. Alors après les salutations d'usage, l'apôtre rentre dans le vif du sujet pour ne reprendre son souffle, nous l'avons dit, qu'au verset 14. Dans ces 11 premiers versets, donc les versets 3 à 14, il évoque les bénédictions qui sont les nôtres, avant de les développer plus en détail ensuite dans la suite de son épître. Alors, quelles sont ces bénédictions mentionnées au verset 3 ? Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction. Alors, avant de nous intéresser d'abord au contenu de chacune d'elles, je vous propose de nous arrêter un court instant sur leur nature. Quelle est la nature de ces bénédictions ? On le voit donc au verset 3, elles sont spirituelles. Que les choses soient donc bien claires, nous rappelle l'apôtre, tous ceux qui attendent d'abord de la part de Dieu des bénédictions terrestres, une bonne santé, un conjoint, une bonne situation, de l'argent, c'est-à-dire finalement un peu tout le monde ici, plus ou moins, eh bien, tout cela vont en être pour leurs frais. Dieu n'est pas le distributeur, n'est pas d'abord le distributeur de bénédictions terrestres selon notre volonté, mais le Dieu qui se plaît à nous offrir incomparablement mieux et qui nous encourage à regarder les bénédictions spirituelles comme bien supérieures aux bénédictions terrestres. L'apôtre n'est décidément pas un apôtre de l'évangile de la prospérité. Non, Dieu n'est pas à notre service pour nous offrir sur commande tout ce que nous croyons bien souvent dans notre folie être bon pour nous. Plutôt que de regarder à nous-mêmes, à nos besoins terrestres, matériels, affectifs, Dieu nous appelle à regarder à lui et à ce qu'il a à nous offrir d'extraordinaire. L'occasion pour nous ce matin de nous poser la question, pourquoi suis-je encore trop souvent insatisfait, malheureux ? N'est-ce pas parce que je continue de voir en Dieu seulement celui qui pourrait me combler de biens terrestres, mais qui ne le fait pas forcément toujours comme je le voudrais, et non comme celui qui me propose quelque chose d'infiniment supérieur, mais que je ne comprends pas ou n'accepte pas, pensant toujours que les bénédictions terrestres sont supérieures aux bénédictions spirituelles dont parle l'apôtre. Alors ce matin, Paul va essayer de nous convaincre du contraire. Prions qu'il réussisse. Alors maintenant, après la nature, le contenu. Quelles sont ces bénédictions spirituelles ? Alors verset 4, mais également verset 5, verset 11, première bénédiction, l'élection. Dieu nous a choisis, il nous a prédestiné. Et ceci avant la fondation du monde. Incroyable, Dieu nous avait choisis avant que nous n'existions. Comme quoi ce choix se trouve bien en lui et en lui seul, et non pas en nous. Et puis l'apôtre précise que ce n'est pas en vertu de notre sainteté, notre perfection naturelle, que Dieu nous a choisis, puisqu'il est écrit que si Dieu nous a choisis, c'est pour que nous soyons saints et sans défaut. Autrement dit, au moment de son choix, nous n'étions ni saints, ni parfaits, même pas potentiellement. Le choix de Dieu a précédé notre perfection, notre sainteté. Ce choix n'est pas la conséquence de notre sainteté, mais bien son but. Alors je sais que cette doctrine pose problème à bon nombre de croyants, mais à la lecture de ces deux versets notamment, on ne peut qu'affirmer qu'elle est biblique, qu'il nous faut donc l'accepter avec humilité. Alors mon propos ici n'est pas de tenter de l'expliquer, mais de pointer les conséquences d'une telle bénédiction. D'abord, elle est rassurante. Le choix de Dieu se trouve en lui et en lui seul, et non en moi. Ouf ! Si son choix pour moi dépendait ne serait-ce que pour une petite partie de moi-même, de ma conduite, de mes œuvres, comment pourrais-je être sûr d'être choisi par lui ? Et si je suis quelque peu lucide sur moi-même, je saurai au fond que Dieu ne peut pas me choisir sur la base de mes œuvres. Elle est donc rassurante. Mais elle produit également d'autres conséquences vertueuses. Elle nous remet à notre place et nous appelle à l'humilité. Ce choix est l'expression de la pure grâce de Dieu pour nous. Nous n'y sommes pour rien. Cette vérité, on le verra par la suite, Paul va la marteler, notamment au chapitre 2. Première bénédiction, donc, nous avons été choisis. Deuxième bénédiction, nous sommes adoptés. C'est le verset 5. Paul parle d'enfants adoptifs. Alors, dans l'Antiquité, le terme était très fort. Les enfants adoptifs avaient en tout point les mêmes droits que les enfants biologiques. Et là encore, Dieu nous accorde une bénédiction tout à fait extraordinaire. Nous sommes ses filles, ses fils, les filles et les fils du Dieu tout-puissant, trois fois saint, créateur de toutes choses, d'un Dieu aimant, ne cherchant qu'une seule chose, nous concernant notre bien. Et ceci est d'autant plus merveilleux lorsqu'on pense à ceux que nous étions. Paul ne va pas manquer de le rappeler aux Éphésiens dans la suite de son épître au chapitre 2. Des hommes rebelles, exclus de tout droit, étrangers aux alliances, destinés à connaître la colère de Dieu. Et puis donc, renversement complet de situation. Dieu a fait de nous ses enfants, avec tous les privilèges que nous confère ce statut, à commencer par celui d'héritier, héritier du grand roi, c'est le verset 14, qui nous rappelle donc que l'héritage qui est déjà le nôtre, nous en prendrons pleinement possession, nous le savons, au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Mais l'apôtre ne s'arrête pas là, il poursuit après l'élection et l'adoption, le rachat et le pardon des péchés. Et là encore, il va expliquer dans son épître, il va rappeler la situation dramatique dans laquelle se trouvaient les Éphésiens. Trévor l'a lu en introduction. Les Éphésiens étaient empêtrés, et nous avec eux, dans leur péché, et ils en connaissaient la pire des conséquences, à savoir la mort. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, rappelle l'apôtre au début du chapitre 2. Paul, dans son introduction, réaffirme avec force ici que les Éphésiens sont pardonnés et par là même rendus à la vie. Ils sont rachetés, ils étaient esclaves sous la juste condamnation de Dieu. À présent, nous sommes libérés du péché et nous échappons ainsi à la condamnation, la juste condamnation de Dieu, à savoir la mort éternelle. Quelle bénédiction! Nous avons été choisis. Et cela en vertu de la pure grâce de Dieu. Nous étions des étrangers pour lui. Il a fait de nous ses enfants. Nous étions esclaves de nos péchés. Il nous a libérés. Nous étions morts. Il nous a pardonnés, rendus à la vie. Quel bon roman! Quel film d'action pourrait exprimer pareil renversement? Quel roman pourrait nous faire passer de la situation la plus désespérée, la plus bouchée dans laquelle nous nous trouvions, à la situation la plus glorieuse? Aucun film, aucun roman, aussi bon soit-il. Et là, nous ne parlons pas de film et de roman, mais de la réalité. Alors, au rappel de ces bénédictions, qu'est-ce qui fait donc que nous ne soyons toujours pas dans le contentement, la joie, les transports d'allégresse? Peut-être continuons-nous de penser secrètement, plus ou moins consciemment, que si Dieu nous a choisis, c'est que nous le méritions quand même un peu. Et dans ce cas, en effet, quelle raison de s'émerveiller devant la grâce divine, puisqu'il n'y a plus de grâce divine, seulement la juste rétribution de mes soi-disant bonnes œuvres? Peut-être continuons-nous de penser que si Dieu a fait de nous ses enfants, c'est parce que nous étions un peu plus acceptables que les autres. Peut-être continuons-nous de nous persuader que nos fautes, nos péchés, n'étaient tout compte fait, pas si graves que cela. Peut-être continuons-nous de penser que Dieu n'est pas si saint, qu'il n'est pas si offensé que cela par notre rébellion. Et en effet, dans de telles dispositions, il n'y a plus de quoi s'émerveiller. Et du coup, nous allons peut-être nous réfugier ailleurs, notamment les bénédictions terrestres. Que le Seigneur nous aide à toujours mieux comprendre la valeur de toutes ces bénédictions extraordinaires et leur caractère totalement immérité. Mais passons à notre seconde partie. Comment recevoir ces bénédictions? Comment en être au bénéfice? Alors, nous l'avons suffisamment répété dans notre première partie. Il n'y a rien à faire qui puisse nous permettre de gagner toutes ces bénédictions. Elles ne se gagnent pas, elles sont offertes. Il nous faut seulement les accepter humblement de la part de Dieu le Père, unis à Christ et assistés par l'Esprit Saint. Et on voit dans ce passage que c'est bien le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, qui nous accorde, qui participe à nous accorder toutes ces bénédictions spirituelles. Donc premier point, tout d'abord, accepter humblement ces bénédictions de la part de Dieu le Père. Alors dans ce passage, Paul parle de Dieu le Père comme l'initiateur, celui qui a pris l'initiative de nous bénir. Verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Alors comment l'auteur nous présente-t-il le Père? Ici, nous retiendrons donc à la lumière de ce passage trois caractères. Dieu le Père est souverain, il est bon et il est un Dieu de grâce, un Dieu souverain. Dans ce passage, l'apôtre insiste en effet sur la souveraineté de Dieu. Verset 1, où l'apôtre rappelle qu'il est apôtre par la volonté souveraine du Père. Verset 4 à nouveau qui nous rappelle que Dieu choisit de façon souveraine. Verset 9, ensuite où l'apôtre nous dit que Dieu a révélé aux hommes le mystère de sa volonté. Verset 11, enfin, où l'on voit que Dieu accomplit tout selon sa volonté. Notre Dieu est un Dieu souverain. Les hommes peuvent, dans leur folie, essayer de contrecarrer ses projets. Il nous a choisis, adoptés, racheté, pardonné. Et rien ni personne ne pourra lui faire lâcher prise. Dieu est bien celui qui est aux commandes. Un Dieu bon ensuite, c'est le verset 5, dans sa bienveillance. Verset 9, où l'on parle de son projet bienveillant. Nous avons un Dieu bienveillant, qui ne cherche qu'une chose nous concernant. Notre bien, d'où toutes ces bénédictions spirituelles qu'il nous accorde. Croyons-nous que notre Dieu est un Dieu bienveillant. Si tel n'est pas toujours le cas, ne serait-ce pas à nouveau? Car nous attendons de notre Dieu d'abord des bénédictions terrestres. Et lorsqu'il ne nous les accorde pas toujours, alors nous doutons de son amour, de sa bienveillance pour nous. Un Dieu de grâce enfin. Alors ce sont les versets 2, 6, 7, 8. Notre Dieu est un Dieu qui se plaît à faire grâce. Et il nous l'accorde avec abondance. Il se plaît à chercher notre salut, à nous relever, nous sauver, sans que nous le méritions. Alors il est intéressant ici de voir comment l'apôtre nous présente le Père. Il est souverain, ce qui est assez classique dans la présentation de Dieu le Père, mais aussi bon. Amour plein de grâce, c'est lui qui prend l'initiative de nous sauver. Cette description va à l'encontre d'une mauvaise perception que nous avons encore trop souvent du Père. Le Père, ce serait le jugement et Jésus, le pardon, le salut. On voit vraiment à la lumière de ce passage qu'il n'en est rien. Alors nous avons dit qu'il nous suffisait donc pour être au bénéfice de toutes ces richesses spirituelles, qu'il nous suffisait d'accepter ces bénédictions de la part de Dieu le Père, mais nous avons précisé, unis à Jésus-Christ. Et nous touchons ici, si ce n'est pas la clé, au moins à l'une des clés de ce passage. Et j'en profite pour remercier Mathieu Hering de m'avoir montré ce point si important. On fait des ateliers de prédication, et voilà, on voit que ça sert. Unis à Jésus-Christ. Alors dans ce passage qui compte 14 versets, l'apôtre Paul évoque la personne du Christ 15 fois, pas moins. Plus d'une fois par verset. Alors si quelqu'un vous dit un jour que Paul n'est pas christocentrique, vous pourrez lui soumettre ce passage. Christ, en effet, est omniprésent sous la plume de l'apôtre. Alors nous n'allons pas relever toutes les mentions de Christ dans ce passage, mais une expression qui revient régulièrement comme une sorte de leitmotiv. Et cette expression, c'est « en lui ». En lui, Dieu nous a choisis. En lui, nous sommes rachetés, pardonnés. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. En lui, nous avons cru. On pourrait ajouter, c'est la fin du verset 6, « il nous a comblés dans le bien-aimé ». Alors, qu'est-ce que l'apôtre veut faire comprendre aux Éphésiens et à nous-mêmes ? Il veut que nous comprenions que toutes ces bénédictions spirituelles, adoption, pardon, rachat, Dieu le Père ne nous les accordera que si nous sommes en Christ. Alors vous me demanderez, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ ? Alors le jeudi soir, on étudie l'évangile de Jean. Et jeudi dernier, on a médité cette parole de Jésus au chapitre 14. C'est Jésus qui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Les choses sont claires. L'accès au Père n'est possible qu'en passant par Jésus. On ne peut connaître le Père et toutes les bénédictions spirituelles dont il est la source sans Jésus. Parole scandaleuse. Comment il n'y a que par Jésus que l'on peut connaître Dieu et recevoir ses bénédictions ? Même dans les églises, cette tendance à vouloir minimiser la médiation de Jésus est présente, jusque dans chacun de nos cœurs. À chaque fois que nous pensons que nous pouvons passer par-dessus Jésus pour accéder au Père, à chaque fois que nous pensons que par nos œuvres, notre mérite, nos études, nos recherches, nous allons connaître Dieu. Dieu va nous accepter. Mais il nous faut préciser les choses. En quoi Jésus est-il nécessaire pour que je puisse accéder au Père ? Alors c'est le début du verset 7 qui nous met sur la voie. En lui, par son sang, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, son sacrifice immense pour nous, sa mort à notre place, qui nous permet de profiter des bénédictions extraordinaires citées dans notre première partie, qui nous permet d'être bénis par Dieu le Père. Sans le sacrifice de Jésus, Dieu ne nous bénirait pas, mais nous jugerait. En lui donc, dans le bien-aimé. Alors dans ces expressions, il y a l'idée que nous sommes en Christ comme nous sommes en ce moment dans une pièce. Alors vous vous souvenez peut-être des prédications sur le déluge. Trevor nous avait parlé de Noé et sa famille qui s'étaient réfugiés dans l'arche. Ils étaient protégés à l'intérieur de cette arche. Et de la même façon, Paul, par cette expression, nous invite à venir nous réfugier en Christ, dans le Christ, et à y demeurer, le seul lieu où Dieu le Père nous bénit. Alors je pose la question, Jésus et son sacrifice à la croix pour nous sont-ils notre refuge ? Est-ce vers lui et lui seul que nous venons et revenons après avoir parfois lourdement chuté ? Est-ce en lui que nous venons véritablement nous réfugier ? Que Dieu nous aide à venir, revenir toujours et encore nous réfugier en Jésus et dans son sacrifice à la croix pour nous. Alors nous ne pouvons finir cette partie sans mentionner donc la troisième personne de la Trinité. Nous l'avons dit, la juste attitude pour recevoir ces bénédictions spirituelles, c'est de les accepter humblement de la part de Dieu le Père, unis à Jésus, et tout à la fois assister, rassurer par l'Esprit Saint. Ce sont les versets 13 et 14. Alors, que nous apprend Paul dans ces versets au sujet du Saint-Esprit promis par Dieu et accordé aux croyants? Nous le savons, nous allons bientôt commémorer la Pentecôte, donc accordé de façon spectaculaire au moment de la Pentecôte. Alors d'abord, l'Esprit Saint, verset 13, l'Esprit Saint atteste-t-il, il assure que nous sommes bien la propriété de Dieu, que nous appartenons bien à Dieu. C'est l'image de l'empreinte ou du sceau, selon d'autres traductions. Et c'est en cela que l'Esprit nous rassure. Alors peut-être vous demandez-vous, comment savoir si nous avons l'Esprit Saint? Alors il est intéressant de relever que dans ce passage, comme très souvent dans la Bible, pour ne pas dire quasiment toujours, l'œuvre de l'Esprit est directement associée à la proclamation de la parole de Dieu, à la proclamation de l'Évangile. Relisons le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Ce qui montre que nous avons ou non reçu l'Esprit Saint, c'est notre réaction face à l'annonce de l'Évangile. Nous croyons l'Évangile. Nous croyons que Jésus et sa mort à la croix peuvent seuls nous réconcilier avec Dieu. Nous avons l'Esprit, signe de notre appartenance à Dieu. Nous continuons de ne pas croire, de ne pas venir nous réfugier en Christ, mais ailleurs, nos œuvres. Nous pouvons légitimement douter de la présence de l'Esprit en nous. Alors, il y a un autre indice de la présence de l'Esprit en nous, ce sont ses fruits qu'il doit manifester, pour reprendre l'une des listes non exhaustives, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Enfin, c'est le verset 14, l'Esprit est le gage de notre héritage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand on achète un bien assez cher, d'une certaine valeur, on paye en général un acompte, 5, 10, 30% de la valeur du bien. Et cet acompte qu'on a payé nous donne des droits sur le bien. Ce bien n'est pas encore en notre possession, pas pleinement, et pourtant nous le possédons légalement. Pour l'Esprit, c'est un peu la même chose. Il est celui qui nous assure que Dieu va tenir ses promesses, parmi lesquelles nous permettre de jouir pleinement de cet héritage dont il parle au verset 14, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors jusqu'à présent, nous avons vu que nous sommes au bénéfice de bénédictions extraordinaires, parmi lesquelles l'élection, l'adoption, le rachat, le pardon des péchés, et que pour cela, il n'y a rien à faire que de les recevoir humblement de la part de Dieu le Père, unis à Jésus et assistés par l'Esprit Saint. Et certains peut-être de dire, la vie du croyant n'est vraiment pas une vie d'action. Il n'y a rien à faire alors. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire pour obtenir toutes ces bénédictions. Elles nous sont offertes en vertu de notre union à Christ. En revanche, toutes ces bénédictions ne peuvent, dans la pensée de Paul, que susciter chez nous l'action. Il n'y a rien à faire pour les avoir, mais lorsqu'on les a reçues, il y a beaucoup à faire. Ce sera notre dernière partie et tout à la fois notre conclusion. Qu'est-ce que ces bénédictions doivent susciter, entraîner chez nous? Alors nous verrons successivement, d'une certaine manière, la foi, la sainteté et enfin une vie dédiée à la gloire de Dieu. Commençons donc par le commencement. La foi, c'est le verset 13. En lui, vous avez cru. Devant toutes ces bénédictions et devant le rappel de la juste attitude à adopter pour les recevoir, à savoir les accepter humblement, unis à Christ. L'homme a la responsabilité de croire ou de ne pas croire. Et là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ne sont pas encore en lui. Croyez. C'est là votre responsabilité. Réfugiez-vous en Christ pour connaître le Père et toutes les bénédictions spirituelles qu'il a en réserve pour vous et qu'il brûle de déverser sur vous. Il veut faire de vous son enfant. Il veut vous racheter pour que vous lui apparteniez. Il veut vous pardonner. Croyez, mettez votre confiance en Jésus. À présent, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont fidèles à Jésus-Christ, comme l'écrit l'apôtre à la fin du verset 1. Paul rappelle ici que leur foi n'est pas le fruit de leur mérite, de leurs efforts, de leurs investigations, mais finalement le fruit de la grâce de Dieu. Encore une fois, si vous avez la responsabilité de croire ou de ne pas croire, oui, vous avez la responsabilité, pardon, de croire ou de ne pas croire, mais si vous croyez, si vous choisissez Dieu, sachez que c'est parce que Dieu vous avait choisi le premier, avant la fondation du monde. L'occasion pour nous, encore une fois, de nous émerveiller humblement devant la grâce de Dieu. Alors, une autre application de ces versets dans notre ministère d'évangélisation. Il faut bien reconnaître que nous sommes parfois un peu découragés devant l'indifférence de nos concitoyens. Paul, l'apôtre, l'a été aussi dans le livre des Actes. Le Seigneur lui rappelle qu'il a un peuple nombreux à Corinthe et que l'apôtre doit continuer de prêcher. Ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il a choisi des hommes et des femmes à la Garenne-Colombes et autour. Il nous rappelle qu'il nous envoie prêcher la parole de vérité, l'évangile qui sauve. Il nous rappelle enfin que sa parole va porter du fruit, car il a choisi des hommes et des femmes avant la fondation du monde. Sans ce choix divin, notre prédication serait vaine. Avec ce choix divin, notre prédication portera des fruits. Alors, qui est choisi? Ce n'est pas notre affaire. Prêchons. Alors, après la foi, la sainteté. C'est le verset 4. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut. Le croyant appartient à Dieu. Et à ce titre, il a la responsabilité de manifester cette nouvelle appartenance par une vie différente de celle des non-croyants. Et l'on voit bien ici que la vie du croyant est bel et bien une vie d'action, une vie qui nécessite de faire des choix, parfois douloureux, des renoncements, mais aussi des engagements, ceci toujours pour la satisfaction de son Dieu. Le croyant appartient au peuple de Dieu qui est un peuple à part, qui vit à présent pour Dieu, pour sa gloire, ce qui nous amène à notre dernier point, un peuple donc dédié à la gloire de Dieu. Alors ce sont les versets 6, 12 et 14. Nous avons été sauvés pour célébrer sa gloire, ou célébrer la gloire de sa grâce. Ces versets reviennent un peu comme une sorte de refrain et nous appellent à nous décentrer de nous-mêmes. Oui, Dieu nous a choisis, nous a adoptés, nous a sauvés, nous a rachetés. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, sous peine de trahir la pensée de l'apôtre. Dieu a fait tout cela, c'est vrai, mais pour manifester sa gloire, pour nous appeler à lui rendre gloire, toute la gloire qui lui est due. Alors, comment ne pas rater cette vocation qui est la nôtre? Comment rendre gloire à Dieu? Et on pense à nouveau, instinctivement, tout de suite, à tout ce que l'on pourrait faire. Chanter, prier, distribuer des invitations, faire des sondages, que sais-je. Pourtant, je crois que cette introduction à la lettre aux Éphésiens nous propose d'autres pistes. Rendre gloire à Dieu, à la lumière de ce texte, c'est d'abord croire tout ce que Paul vient de nous rappeler ce matin. Croire. Dieu nous a choisis, adoptés, pardonnés. Cela en vertu de l'œuvre de Jésus. Rendre gloire à Dieu, c'est nous réfugier en Christ et non dans autre chose. Nous attacher toujours plus à sa personne et à son sacrifice. Et rendre gloire à Dieu, c'est nous réjouir, nous émerveiller devant tant de bonté et de grâce. Rendre gloire à Dieu, c'est sortir ce matin de l'église avec la joie dans notre cœur et sur notre visage, en repensant à tout ce que Dieu a fait pour nous. Ainsi, les Nietzsche que nous croiserons dans la rue ce matin, ou à un autre moment, commenceront eux aussi à croire. Et c'est cela, rendre gloire à Dieu, le montrer aux autres par des vies transformées, des vies heureuses, pleinement satisfaites, tout en proclamant l'Évangile. Ainsi, le projet de Dieu, ce sont là les versets 9 et 10. Ainsi, le projet de Dieu, Dieu le Père, de tout réunir sous l'autorité de notre Seigneur Jésus, s'accomplira. D'ailleurs, il est en train de s'accomplir. Les non-croyants d'aujourd'hui, choisis par Dieu, par la prédication de l'Évangile et le témoignage de nos vies heureuses, satisfaites, les non-croyants croiront et viendront se placer sous l'autorité du Christ. Juifs, non-juifs, blancs, noirs, jaunes, petits, grands, riches, pauvres, des hommes issus de tout horizon viendront se placer sous l'autorité du Christ. En attendant le plein accomplissement de ce projet divin pour notre plus grand bonheur et pour la plus grande gloire de notre Dieu. Amen.